Dans les constitutions apostoliques, la méditation nous est proposée. Un vieux document, ça, du 4e siècle, je crois. Et un très vieux document. Destiné à l'Église, au successeur des apôtres, et qui réputait être, ça fait partie de ces documents, des très très vieux là, qui devrait avoir plus d'importance, je trouve, parce que il y a la Didaké, qui est enfin l'héritage des apôtres, et puis les constitutions apostoliques. La Didaké semble beaucoup plus proche quand même des apôtres, mais les deux bons donnent une ligne de force qui vient des 12 apôtres. Et ils donnent des enseignements que les apôtres ont en commun, reçus, je veux dire, par Jésus. Il y a des choses très 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 belles. Par exemple, dans la Didaké, il y a les deux voies, possibles, deux chemins devant nous, deux chemins de... Voilà, le chemin de la grâce sanctifiante, le chemin de Jésus, le chemin du Christ, le chemin de que Dieu a tracé, qui est un chemin d'amour, en fait, qui est un chemin d'amour, oui, de charité, de foi, de charité, d'espérance. Et puis il y a un chemin où on cherche aussi quelque part un autre chemin, où on cherche l'absolu, on cherche on cherche l'accomplissement, la réalisation de toutes les capacités, toutes les potentialités, toutes les richesses, tous les talents de notre univers, de notre humanité, donné par Dieu, quoi. Mais sans la grâce, on appelle ça la gnose, sans la grâce, on dirait aujourd'hui par les énergies, quoi. Aujourd'hui, on dirait, voyons, il y a la voie chrétienne et la voie christique. Et alors Jésus enseignait aux apôtres que la tentation, c'est la voie christique. Ah, c'est la tentation. La métatentation, la tentation. Parce qu'on recueille tous les bienfaits de Dieu, tous les rayonnements, les surabondances des énergies du Christ. Mais on ne prend pas le Christ. On ne prend pas Jésus, quoi. On ne prend pas. Vous voyez ce que c'est? C'est ça. Alors on prend le schéma, mais on ne prend pas le bon Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu dans la gnose. Il n'y a pas d'union, quoi, transformante, où Dieu peut se réfugier en nous et s'exalter dans une transformation d'épouse, quoi, dans des noces, dans un tourment, quoi, de participation à la vie divine. Il y a quelque chose de messianique dans la gnose. C'est vrai, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sainteté, c'est pas la sainteté. Ça pourrait en avoir les apparences, quelque part, une certaine justice christique. Mais elle sèche, quelque part. Mais ça, c'est dans la Didaké. Les deux voies. Mais l'Église, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle dit, attends, c'est pas la voie ésotérique. Hein. La voie chrétienne n'est pas une voie d'initiation ésotérique, christique. pas les énergies. Mais les gens, je ne sais pas pourquoi, ils aiment bien les énergies. Ils n'aiment pas. Ils ont du mal, hein, avec rentrer dans. Ils ont du mal. Et ce qui fait, semble-t-il, enfin, on pourrait dire, ce qui fait la différence entre les deux, c'est vrai, c'est l'amour, quoi, c'est l'amour de Dieu, mais ce qui fait la différence entre les deux dans le concret, en fait, c'est qu'on a du mal à obéir aux commandements de Dieu. Donc, quand on dit non, moi, les commandements, c'est trop. Non. Eh oui. Je veux quand même vivre ma vie, hein, dans le péché, quand même. Alors, c'est à cause de ça qu'on garde toujours l'aspiration à l'absolu. Et ceux qui disent profondément, ils disent non, moi, le commandement de Dieu, moi, je veux pas. Ils tombent dans le péché et surtout ils veulent s'y installer. Et du moins ils ne veulent surtout pas donc renoncer au péché, quoi. Alors à ce moment-là, ils rentrent dans la deuxième voie. Voilà, c'est ça qu'on remarque. C'est ce que remarque Saint Jean, voilà, quand il est vieux, qui écrit l'épître. Voilà, là où tu achoppes dans le concret, c'est le commandement. Voilà, tu marques par là que c'est la deuxième voie que tu vas prendre. Puis c'est tout. Tu ne seras pas un monstre. Donc si tu veux savoir vraiment si tu es dans la voie dans la mauvaise voie, si tu t'es perdu, quoi, complètement. C'est ça, est-ce que regarde le commandement. Regarde le commandement. Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas ses commandements est un menteur. Alors si tu veux la voie du menteur, c'est comme ça. C'est un peu vrai, hein. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Moi, je me suis marié une première fois, je me marie une seconde fois, je me marie une troisième fois. Ben, je vais rentrer dans un truc ésotérico, vie immaculée, etc. J'ai volé, j'ai pas été honnête, bon. Une première fois, une deuxième fois, je vais pas. Ben, je vais rentrer dans les ateliers, puis. Mais dans les ateliers très très purs, on promet sur la Bible. C'est comme ça en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence, pourquoi quelqu'un reste dans l'athéisme alors qu'il admire les églises. Pourquoi? Ben, c'est parce que y a un démon qui s'est appuyé à l'intérieur de ma porte, hein. Il m'a laissé dans le péché. Et l'enfant qui lutte contre le péché, l'enfant qui lutte contre dès la petitesse de sa vie humaine, il veut pas faire de la peine à Dieu. Il veut être uni à Dieu. Il restera à l'intérieur de la voie du cœur, Sacré-Cœur, de l'amour brûlant. Il voudra rester dans la sainte famille de Dieu. Il voudra vivre de la grâce sanctifiante. Il sera sensible à Jésus crucifié. Il sera très sensible à Jésus crucifié. Mais ce déploiement de richesse, de gloire et de réalisation christique, c'est pas ça qu'il va chercher en premier lieu, hein, c'est sûr. Alors, voyons ce que disent les constitutions apostoliques. Il vous faut, ça s'adresse au. C'est censé être Jésus, hein, qui donne des conseils. Hein. Il vous faudra encourager les pécheurs, les exhorter à la conversion et leur en donner bonne espérance, sans vous imaginer que vous deveniez complice de leurs fautes parce que vous leur exprimez beaucoup d'amour. Ceux qui vont se repentir, accueillez-les avec plaisir, en vous réjouissant à leur sujet. Les pécheurs Jugez-les avec clémence et miséricorde. Quelqu'un marchant le long d'un fleuve est-il près d'y tomber? Si tu le pousses avec une fourche et le précipites dans le fleuve, plutôt que de lui tendre la main, tu auras tué ton frère. Au contraire, il faut tendre la main à celui qui tombe, de peur qu'il ne périsse définitivement, pour que le peuple aussi en tire une leçon et que le pécheur ne périsse pas entièrement. Gardez-vous donc de condamner injustement et d'être une plaidoirie pour les méchants, parce que si vous condamnez les autres injustement, vous vous condamnez vous-même. Parce que le Seigneur dit, de la manière dont vous jugez, vous serez jugé. Alors, c'est bien ça, hein, les pécheurs sont appelés, les pécheurs sont aimés, et les pécheurs sont, ne sont pas jugés, mais ils sont aidés. C'est ce secours divin. Les pécheurs sont des cœurs ouverts dans lesquels la mission invisible de Dieu dans le Christ Rédempteur, à travers nous, voilà, sont appelés. Ah, évidemment, on est au bord d'un fleuve. Ah bon, celui-là, il est pécheur, alors paf, faut lui donner un coup pour qu'il tombe dans le fleuve. Parce qu'il est pécheur, allez hop. Non, 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 on l'éloigne de la rive du fleuve. On le prend, on l'amène, on lui fait miséricorde, enfin, je sais pas. C'est sûr. Et la première chose, c'est de dire, tu sais, bon, une des toutes premières choses à dire à un pécheur, c'est ce qu'ont fait toujours les prophètes, c'est-à-dire, mais tu es dans le péché. C'est, faut avertir le pécheur. Et faut pas, en lui disant, tu es dans le péché, mais d'une manière telle, avec un ton, avec un regard aussi, qu'elle te regarde d'invitation. Mitzvot, c'est une invitation, un commandement. Mais tu n'es pas dans le commandement, donc tu es invité à rentrer. C'est pas un commandement, donc allez hop, dans le fleuve, coup de fourche. C'est sûr, c'est évident. Mitzvot, t'es un enfant, quoi, de l'invitation, on est tous dedans, et voilà, donc on l'aime, on le dit, voilà. On avertit le pécheur en ce sens que on lui dit, mais ça s'entend très très bien dans notre cœur que c'est pas une condamnation. Ah, mais c'est génial! C'est génial, c'est maintenant, c'est que tu viens te chercher. Voilà, faut pas croire que c'est impossible, c'est pour toi, c'est pour toi beaucoup plus que pour qui que ce soit d'autre. Ta place, elle est là, dans la voie, dans la transformation, au cœur de la Jérusalem glorieuse, spirituelle. Béni, immaculé, quoi. L'Immaculée Conception et toi, vous êtes faits pour être confondus ensemble. C'est ça, les gens pensent que non, c'est pas pour eux. Quelqu'un qui est franc-maçon pendant 20 ans, il dit, mais ça, c'est pas pour moi, ça. C'est très touchant et c'est très triste en même temps de voir un franc-maçon, un ésotériste, un type du christique, un bodhisattva, il arrive à sa mort et il se retrouve là et sa vie est terminée, il n'a vécu qu'une seule vie sur la terre, il n'en vivra pas une deuxième. Et puis il voit quoi, qu'il voit Dieu, à quel point Dieu est beau, splendide, admirable, extraordinaire. Et il dit, mais, et puis il passe, il ne demande pas pardon. Pense que c'est pas, Dieu n'est pas pour lui. Il a toujours pensé que Dieu n'était pas pour lui, parce qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui lui dise, mais Dieu est pour toi. C'est pas parce que tu as pris la mauvaise voie que tu ne peux pas être immédiatement, immédiatement. Et c'est pour ça qu'il faut de la miséricorde. Et l'Église, elle est là pour ça. Enfin, Jésus est venu pour ça. Le Père a envoyé son Fils pour ça, pour qu'il y ait une clémence, une douceur, une humilité, quoi. Une très grande humilité. Moi, je suis sans péché. Tu es sans péché, bien sûr. Mais à celui qui est sans péché, Dieu n'est pas envoyé, parce que celui qui est sans péché, il est dans Dieu. Et il est envoyé, quoi, avec beaucoup de clémence, beaucoup de miséricorde. Et il vient envelopper le pécheur pour le prendre dans son cœur. Bien sûr que c'est pour nous que Dieu est là. C'est triste de voir ça. À la mort, ils voient Dieu. Et puis, ils ont toujours pensé comme ça. Ils l'ont toujours entendu comme ça. Finalement, c'est peut-être pas pour moi, ça n'a jamais été pour moi, donc ça n'est. Mais qu'est-ce que vous êtes bête? Pourquoi vous ne demandez pas pardon, tout simplement, en disant, voilà. Me voici, puisque Jésus a tout fait. Je veux bien regarder et recevoir quelque chose, quand même. De la miséricorde, Dieu. Et de la clémence. De l'amour paternel de Dieu. Hein, c'est ça. C'est ça qu'il a fait comme encyclique le pape, là, en disant Amoris Laetitia. Voilà. Non, non, faut pas dire ça. Mais bien sûr que si, je veux dire. On n'est pas, nous ne sommes pas là pour dire voilà. Ceux qui n'ont jamais péché, voilà, on fait en sorte qu'ils restent bien dans l'Église. Et ceux qui sont dehors, qui sont pas chrétiens, qui sont diaboliques, qui sont dans une vie épouvantable, bon, c'est pas notre truc, quoi. On va laisser ça aux gardiens de sécurité des boîtes de nuit. Hein. C'est pas notre truc, hein. C'est pas notre métier, c'est pas à nous, ça nous concerne pas. Voilà, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Quand on a la chance de rencontrer quelqu'un qui est dans les buissons comme ça, pris dans les épines, très loin, c'est beaucoup de chance. C'est beaucoup de chance. Parce que voilà, on sait que c'est peut-être la seule occasion de toute sa vie, cet homme-là, qu'il y aura quelqu'un qui va le regarder, qui va avec la clémence. C'est beau ce mot, hein? La clémence. Une clémence, un amour, une magnanimité enveloppante, quoi. Dire, mais voilà, oui, ça c'est sûr, bon. C'est pas génial, mais moi je vous prends sur mes épaules, hein. On se quitte, vous savez, mais je vous prends sur mes épaules, je rentre chez moi, mais je vous prends sur mes épaules, hein. Vous n'aurez pas, le bon Dieu vous pardonne, il se donne entièrement à nous, vous savez. Enfin, il faut les inviter, en somme. Vous savez, c'est pour vous, hein? C'est pour vous. Il faut qu'ils sentent que c'est Dieu qui les appelle. Il faut qu'ils sentent que c'est Dieu qui leur a parlé. Il faut qu'ils sentent que Dieu a pénétré à l'intérieur de leur cœur, du fond de leur cœur, pour dire, il faut qu'ils sentent que c'est la vérité, que Dieu les aime et qu'ils sont pour le ciel, qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun désespoir. Il n'y a plus aucune. Il y a une espérance qui crée partout, quoi. J'espère une confiance, du coup. Et du coup, quand on verra la splendeur de Dieu, on ira avec confiance. On se laissera, on s'arrêtera quand même. Et on n'aura pas peur. Et on ne sera pas dans le mensonge, quoi, qui dit, mais non. Le menteur, c'est celui qui nous condamne. Et voilà, c'est ça, Maurice Laetitia. Bon, alors, évidemment, ils vont pas devenir des saints Jean de la Croix comme ça, du jour au lendemain. Donc, mais oui, des catéchumènes, oui. Dès qu'un chrétien a rencontré quelqu'un qui est très très loin, eh bien, c'est devenu un catéchumène. Aussitôt. Aussitôt. Ça devrait être comme ça, en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est Amoris Laetitia. Ça ne veut pas dire, ça y est, il communie, il fait oraison. Il vit le fruit de tous les sacrements, il vit de tous les sacrements, etc. Et c'est un apôtre des derniers temps. Non, 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 il reste sans doute, il va encore patauger dans les loges, dans tous ces, avec toutes ces miasmes et tout ça. Mais sa tête est désormais, par l'espérance, tournée vers le salut. Il est donc entré dans l'église. Et il fait partie de l'église. Il a le visage tourné maintenant dans l'invitation de Dieu. Même s'il ne respecte pas le commandement, il est invité. Il a le visage tourné vers ça. Parce qu'il y a un acte d'amour qui fait que il y a une clémence, une miséricorde et un don. Et il regarde de ce côté-là, par le fond du cœur. Il sait que Dieu l'invite et que cette invitation est pour toujours maintenant. Donc au jour du jugement particulier, c'est ça qui va se rappeler. Il n'aura pas peur d'aller dans la lumière et de dire, bon, je me laisse faire, je me laisse prendre par la clémence, hein, la magnanimité, puis me voici pour être pardonné, quoi. C'est terrible, hein, tous ces titans, ben, c'est pas pour moi. Et puis ils sont dans la réprobation, ils refusent le jugement particulier. Il suffit d'une seule rencontre, une seule rencontre. Et ça ne se produit pas, ça. Et on laisse les 99 qui sont de l'Église catholique de toujours, avec le rite de Saint-Pierre. On les laisse, c'est eux qu'on va chercher. C'est eux qu'on va chercher. Ça reste toujours là entre nous. Alors l'évangile aujourd'hui, ben ça, tu dis quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu juges ton prochain et là, dans ton œil, il y a une poutre, quoi, tu veux enlever la paille. Ça c'est joli, ça. C'est joli, parce que bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tout est dans le regard, hein, dans le regard. D'ailleurs, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus est monté sur la montagne et il projette d'un seul regard, comme ça, d'un seul regard, de sa divinité de Verbe, toutes les pierres vivantes, de sa Jérusalem bénie, dans les pauvres, tout ça, jusqu'à la fin. Et c'est le regard, il parle tout le temps de ce mot du regard. Ça revient souvent. Et le regard, notre âme, c'est le regard de Dieu, quoi. Nos raisons, c'est un regard, hein. C'est un regard transformant. Dans l'intériorité du face-à-face, le regard de Dieu nous regarde, hein. Dieu nous contemple, hein, puisqu'il contemple en nous le Fils qui nous ramène à lui. Et c'est ça, tout ça, pendant tout le mois de juin, c'est l'évangile de Saint Matthieu, et le discours des béatitudes, et le discours sur la montagne, à trois chapitres du livre. Et là, on arrive là, alors c'est le regard, c'est l'œil. Ah ben l'œil, l'autre jour, l'œil c'est la lampe du corps. Oh que c'était beau ça. Oh que c'était beau ça. Et là, le regard, t'as la poutre et t'as la paille. Notre vie est une vie contemplative, c'est là où on a une dignité, une splendeur, enfin une ressemblance, une identification avec Dieu, quoi. Dans le regard, on a une identification avec Dieu. Dans la chair, non, parce que Jésus, Dieu est un pur esprit, esprit pur, éternel. Dans l'âme non plus, puisque Dieu n'a pas d'âme. Et nous avons une âme. Mais dans le regard, ouais, dans le regard, non. Une capacité de Dieu immédiate, directe, de s'enfoncer dans la lumière du regard spirituel de l'homme, s'identifie à lui et s'assimile mutuellement. On est fait pour ça, on est capax dei. Capax dei. Alors, dans l'œil, il y a la poutre, dans ce regard comme ça extraordinaire, il va y avoir une poutre, il va y avoir la paille. C'est beau ça. Alors celui qui a la poutre, ben, il dit, oh, lui, ce jugement qu'on a c'est, sur les autres, c'est, tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton, dans le regard de ton voisin, tu vois pas la poutre. Bon, il faut pousser un petit peu, mais bon, la paille, la poutre, c'est la croix. Cette fameuse poutre là. Et la paille, c'est ce qui porte le grain eucharistique. Le jugement, tu vois, la paille, ça veut dire, tu dis, mais lui, il est chrétien. Et il n'est pas chrétien dans ses actes. Il va à la messe, hein, la paille. Tu vois la paille dans son... Mais il est terrestre, quoi. Il n'a pas le fruit. Hein. Il fait pas... Il n'agit pas. C'est un mauvais, quoi. Donc tu vois ça, tu vois. Ça, on voit les défauts des autres. On voit les défauts. On les voit, les défauts. Des gens. Tout le monde n'est pas dans la... C'est vrai. C'est vrai. Mais toi, tu vois pas, quand tu dis ça, que tu n'es pas dans la clémence et la miséricorde. Tu vois pas celui qui est pendu à la croix. C'est une poutre que tu as, toi. Parce que sur la poutre, c'est Jésus, quand même, c'est Dieu. Qui nous invite au pardon, qui nous donne tout, qui se donne en entier. Qui complète tout. Qui vient nous chercher, quoi. Donc, il y a un regard. Il faut avoir un regard. Alors, évidemment, quand tu vois de l'extérieur, tu vois. De l'extérieur. Quand tu vois quelqu'un de l'extérieur, ben tu vois la tige, tu vois pas le fruit, c'est vrai. Comment ouais. Et c'est donc la preuve que tu vois quand tu regardes le poteau, quand tu regardes une croix, quand tu regardes la croix de Jésus, que tu regardes la souffrance, que dans le tourment de Dieu, le tourment du Christ, tu ne vois pas son amour, quoi. C'est l'amour. Palpitant, qui est suspendu à la croix. Mais si tu avais un regard intérieur d'amour de Dieu, si tu étais uni à Dieu, si tu voyais le Père et l'Esprit Saint, regardant la divinité toute pure, extasiée de sa lumière vivante, toute donnée, toute bénie, suspendue de l'intérieur, et clouée à la croix, à ce moment-là, tu ne verrais plus, tu n'aurais plus cette poutre à l'intérieur de toi. À l'intérieur de ton œil. Tu ne l'aurais plus. Et tu verrais à ce moment-là, tu verrais à ce moment-là que dans ton prochain, tu verrais que dans ton prochain, il porte le salut du monde. Parce que, avec sa pauvreté, tant qu'il peut, il porte le fruit de l'Eucharistie, quand même. Il est identifié. Hein. Regardez comment on peut juger des prêtres, par exemple. À quoi c'est fou, quoi, de voir ça. On va même juger le pape, quoi. Même le pape. Ouais. Ah, Maurice Laetitia, ça y est, il veut donner la communion divorcée. J'ai jamais dit ça, de toute façon. C'est pas son problème. Son problème, c'est pas de, je donne la communion au divorcé. Il n'a pas répété pour la 10 000e fois ce que l'Église n'arrête pas de dire, à savoir que bon, on s'enfonce profondément, progressivement, de plus en plus dans l'amour de Dieu. Et que si on est un mélange d'ivraie et de bon grain, bon, on est un mélange d'ivraie et de bon grain, on a notre place quand même. On a notre place, chacun à sa manière, mais on a notre place, quoi. Et donc, il faut être extrêmement attentif, quoi, les uns vis-à-vis des autres, dans la miséricorde, la clémence. La joie aussi. Ensemble, tous ensemble dans l'église. Alors il y a les bougonneux, il y a les murmureurs, il y a les bras cassés, il y a les francs-maçons. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Et le prêtre il est là, et Jésus il est là pour se sacrifier là au milieu d'eux, et le prêtre il est là pour expliquer. Voilà. Vous pouvez communier, vous savez. Mystiquement, vous pouvez recevoir cette miséricorde la même que ceux qui vivent tous les sacrements et tous les commandements, mais d'une manière profonde, quoi, d'une manière finale, d'une manière à la manière de la Jérusalem terminale. Vous pouvez communier comme ça. Vous pouvez recevoir le fruit du sacrement, la tige. Vous ne la recevez pas, très bien. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque si vous avez le fruit, l'eucharistique, le fruit, l'absolution, le fruit, c'est quoi? C'est que je vais vers mon Père, il me pardonne. Même si je ne me confesse pas, je peux le dire quand même. Bon. Et du coup, il n'y a plus la paille. Et je ne vais pas regarder mon prochain en fonction de la paille, je regarde en fonction du fruit des sacrements. Mais si je ne vis pas de la transverbération, la transglorification, de l'immolation, quoi, comment l'immolation de Jésus hostie dans ce silence qui dure des millénaires, quoi, dans l'hostie, c'est-à-dire dans son hypostase, hein, à l'intérieur du Père, c'est ça que je vis. Si c'est pas ça que je vis, automatiquement, je dis, ah, mais lui, il n'a pas le droit de communier. Peut-être qu'il n'a pas le droit de communier, c'est pas exactement ça le problème, mais le pape il dit, attends, il y a le fruit des sacrements, il ne faut pas oublier qu'ils sont deux, hein, ils sont deux papes. Donc le pape Benoît, il commence à faire une encyclique, hein, sur l'amour, la carité, la charité, et sa deuxième encyclique, c'est sur le sacrement, quoi. C'est l'Eucharistie, enfin bon. Et donc forcément, à ce moment-là, il explique, quoi, que c'est le fruit qui compte. Et bien sûr, il faut avoir la foi dans la liturgie. Oui, vous pouvez rentrer. C'est le fruit. Alors, il explique ça. Il a fait que deux encycliques en tout, au total. Deux, c'est tout. Mettez-vous là, je vous en prie. Fermez la porte. Fermez la porte. Non, non, l'autre. Non, non, la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Asseyez-vous, mettez-vous. Voilà, mettez-vous là. Vous avez un fauteuil avec tout ce qu'il faut. C'est bien de venir à la messe, ça c'est merveilleux, ça c'est beau.
Vous avez pas vu mon maître.
C'est grandiose. Hein?
Vous êtes en avance.
Ça va, 9 h, c'est bien. On était en train de faire l'introduction.
Désolé de vous interrompre.
Alors, on disait justement donc que les encycliques de Benoît XVI, c'était des encycliques merveilleuses. Une sur l'amour, quoi, ce qui compte, c'est la charité. Et la deuxième, c'est sur l'Eucharistie, quoi. Mais l'Eucharistie, très bien, voilà, on a la foi, on célèbre. Dans une très 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 grande profondeur, la 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 mort victimale, quoi. La mort victimale de... oui, de l'hostie, c'est là que ça s'appelle. Et c'est très bien qu'on le fasse avec la foi la plus profonde possible, l'espérance la plus grande possible, et la grâce sanctifiante, si elle est là. Mais ce qui compte, dans l'encyclique de Benoît XVI, ce qui compte, c'est qu'on presse, on presse, on presse, on presse en nous nos pauvretés, et qu'on fasse sortir de l'Eucharistie la charité, qu'on fasse le fruit, la messe, c'est bien, mais c'est très bien, c'est très très bien la messe, c'est très bien, c'est très très bien, cette tige extraordinaire, ce champ de blé, mais ce qu'il faut, c'est prendre l'Eucharistie dans son fruit, quoi. Là, c'est ce que Dieu en mange. Il mange pas la paille, ça c'est pour les vaches. Donc ne regarde pas la paille. Ça veut dire que tu es encore dans une poutre. Et voilà. Et donc, c'est l'encyclique de Benoît XVI. C'est la fruit des sacrements. C'est le fruit des sacrements. Même quelqu'un qui n'a jamais vu un seul sacrement de toute sa vie, même pas le baptême. Mais on lui dit. C'est ce qu'il a dit, le pape Benoît XVI. Il a dit, mais vous avez le fruit, hein. Vous avez le fruit des sacrements. Prenez le fruit des sacrements. Même si vous n'êtes pas baptisé, vous ne communiez pas, vous n'êtes pas confessé. Et alors, vous pouvez prendre le fruit des sacrements. Vous êtes bouddhiste, hindouiste, bodhisattva, etc. Prenez le fruit des sacrements. Comme ça, le fruit des sacrements, vous êtes embarqué à l'intérieur de la clémence, la miséricorde, l'embrasement de Dieu. Victimal, hein, d'amour. Mais à travers vous, de tout, la nature humaine entière. Et à ce moment-là, il y a un emportement d'inspiration à l'intérieur de Dieu. S'il n'y a pas cette inspiration, comment est-ce que Dieu dévore, c'est-à-dire son Fils unique et bien-aimé, dans la récapitulation. Séraphique. Il n'y a rien du tout. Et donc, lui, le pape François, il arrive au milieu de tout ça, il dit, bon voilà, tiens, on est deux, bon... Et bien il continue, puis il dit à Maurice Laetitia, il dit voilà, ben, il développe, il dit voilà ce qu'a dit Benoît XVI, il dit la même chose. Voilà, il faut une. Il faut pas regarder la paille, il faut pas regarder la poutre, il faut regarder de l'intérieur celui qui est sur la poutre, et regarder de l'intérieur ce qui est dans le fruit, ce qui est dans le Père, quoi. Et c'est ça. À Maurice, alors à ce moment-là, il y a de l'amour, il y a de la joie. Parce que tant qu'il y a quelqu'un, une seule personne dehors, il ne peut pas y avoir de la joie. Et ça, c'est le pape François. Pape François, moi, je l'ai vu une fois, le pape François. Bon. On ne veut pas me croire quand je le dis, mais j'étais là, j'étais avec une bannière. Elle est là, d'ailleurs. Une bannière de Jeanne d'Arc. Vous voyez, si vous qu'il n'y a pas trop de psychiatres là-bas sur la place Saint-Pierre, mais une bannière de Jeanne d'Arc et c'était un homme blanc en plus. Et lui il arrive, il m'a repéré, hein. On va dire que c'est pas très difficile à repérer. Il m'a repéré d'assez loin. Et alors, quand il m'a vu là-bas, quand il m'a vu, ça allait assez vite. Hein. Il était sur la papa mobile, hein. Attention. Hein. Il n'était pas à pied. Hein. C'est facile là, de prendre à pied, c'est possible. Mais là, non, elle allait vite. Hein. Elle allait vite. Il m'a vu à 100-200 mètres. Tous ceux qui étaient avec moi, ils ont halluciné. Il a ouvert les bras comme ça. C'est pas la bannière qu'il a vu, je sais pas quoi. Et il a ouvert les bras. Mais incroyable, hein, incroyable. Hein, vraiment. Hein, il a volé. Mais alors, c'est comme si la voiture, elle m'arrivait dessus. Mais il était dessus de la voiture, quoi. Il était dessus de manière telle que c'est comme s'il dirigeait la voiture. Comme s'il se jetait dans mes bras, comme en volant, quoi. Et alors, mais en volant, quoi. Et avec... comme ça, mais... Alors moi j'étais comme ça, alors moi, lui il était comme ça, et moi j'étais comme ça, c'était fini, alors je dis bon, on a vu qu'il a, je sais pas, il a mis sa tête ailleurs, bon, il a été, c'est une espèce de, voilà, il n'y avait pas de paille, il n'y avait pas de poutre là. Il n'y a pas de jugement. C'est quoi ce guignol? Il n'y a pas le regard du psychiatre. C'est quoi ce mec-là avec sa bannière? Non. Voilà. Amoris Laetitia, c'est tout. C'est tout simple. Voilà. Je suis invité à embrasser le drapeau de Marie, reine des apôtres. Et patronne de patronne pour enlever les démons et tous les démons païens, quoi, les déesses grecques, Europa, c'est la déesse païenne, quoi. Donc il va embrasser, il va étreindre la bannière de Marie, de tous apôtres, de l'église apostolique et débordante. Il va, il l'étreint, puis il dit voilà, alléluia, tu es là, il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus rien, il n'y a plus que Marie, il n'y a plus que l'Église, il n'y a plus que la Jérusalem glorieuse, c'est ça. Ça, ce qu'il y a dans le cœur, il n'y a pas de poutre, il n'y a pas de paille. Mais si je vois la paille, c'est le fruit. On gère le fruit, quoi. Regardez, si vous avez des vaches, si vous avez du blé, voilà, c'est le fruit, c'est ça. Quand on va rentrer dans le cinquième saut de l'Apocalypse, il y a le fruit qui va commencer. Le fruit qui va commencer à être moissonné. Pour faire que la Jérusalem spirituelle de la terre soit aussi mangeable que la Jérusalem glorieuse et bénie du ciel, les deux ensemble vont cuire ensemble et puis être assimilés par le Père pour qu'on puisse recueillir. Et accueillir la mission invisible et éternelle, et ancrée de l'hypostase du paraclet. Mais si tu ne vas pas jusqu'aux noces de l'agneau, la sixième demeure, où est la mendication du fruit? Alors d'accord, reste avec ta messe de Saint-Pie-V si tu veux. Reste avec ton truc catholico, machin truc. Tu ne vaux pas mieux que les gens qui sont dans la loge ésotérico-gnostique. Puisqu'il n'y a pas le fruit. Mais tant que tu juges, ça c'est sûr que tu n'es pas dans l'Église. Tu n'es pas dans le cœur de Jésus. Tu n'es pas un membre vivant de Jésus. Tu n'es pas à la réception du paraclet. C'est absolument certain. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Si tu vois la paille, regarde la poutre. Et dans ton œil à toi, c'est sûr. Jésus a fait disparaître la croix, la poutre, le côté atroce de notre humanité. Il s'est suspendu dessus, il l'a fait disparaître en petit. Il a fait disparaître ce côté atroce. Et il ne reste plus que cette plaie ouverte, j'allais dire. Palpitante, brûlante, quoi. Il est dans une hostie, quoi. Et cette plaie palpitante, brûlante, cette liqueur inouïe, miséricorde de pardon, de transformation, quoi, de recréation de l'univers dans la Jérusalem glorieuse, dans l'immaculation absolue, par tous, en tout. Continuellement, et même jusqu'à éternellement, la porte de l'éternité ouverte en elle. C'est dans l'hostie, ça. C'est Jésus hostie, Jésus victime. Le fruit. Et bien, dedans, il y a un fruit dans Jésus hostie. Et c'est le fruit. Déjà, l'hostie, c'est énorme. Si tu regardes ce qu'il y a dedans, ça a déjà fait disparaître la poutre. Ce qu'il y a d'atroce. tu vis à ce moment-là. Et que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'union hypostatique de Cyrus Jésus. Entier, quoi. Entier. Jésus vivant et entier. C'est-à-dire avec tous ses membres dans la Jérusalem glorieuse immense, de la Jérusalem spirituelle, toute la nature humaine. Il vient les visiter chaque être humain, à chaque moment. Chaque... Et moi, je suis dans l'hostie avec Jésus, à pénétrer dans chaque être humain. Chaque être humain, depuis Adam jusqu'à la fin, et même ceux du monde futur, dans chaque acte qu'ils produisent, absorbant à l'intérieur de moi, dans un amour brûlant, victimal, embrassé, séraphique, continuel, humble, adapté, en affinité avec chacun. Et moi, le chrétien, je suis le pape et je suis le chrétien. Et ben, je rentre avec Jésus dans chaque être humain. Et dans cette... voilà ce qui va se passer pendant la demi-heure où la poutre va disparaître et la paille aussi. Et ça va durer une demi-heure. Mais ceux qui ne se sont pas entraînés, ce sera dur pour eux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a ces deux papes qui disent l'un comme l'autre exactement la même chose. Il faut aller chercher tout le monde partout. Dans les divinités païennes, dans... partout. Il faut aller les chercher partout, partout, partout. C'est peut-être pour ça, tu vois, que quelqu'un comme ma petite Marthe Robin, avec sa petite voix géniale, elle disait « Mais enfin, il n'y en aura plus de congrégation. » À quoi ça sert une congrégation, franchement, hein? Quand t'es dans le cinquième saut de l'Apocalypse, où est-ce que tu as besoin d'une congrégation, franchement, c'est ça. Bon, ça n'empêche. Moi, je mettrai toujours la sagesse, s'il en reste.